Soir vous propose du lundi au vendredi à partir de 16h, heure de Kinshasa, la chronique développement durable et environnement, les offres d'emploi, les nouvelles du site web de Radio Okapi. Retrouvez à partir de 17h sur la radio de la paix, les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, économie, paroles d'enfants, rencontres avec les Congolais de l'étranger et les infos sport toutes les demi-heures. De 16h à 19h, bienvenue dans Okapi Soir.
Bien, nous parlons à présent de la vente obligatoire des syllabus à l'université. Vous savez, ce phénomène, cette pratique est devenue courante dans les universités et établissements d'enseignement supérieur. Une pratique de plus en plus décriée par bon nombre d'étudiants parce que parfois la réussite ou l'échec est conditionné par l'achat du syllabus. Ceux qui n'ont pas acheté risquent d'être ajournés. Voilà. Alors, on se pose la question de savoir quel est l'impact de ces phénomènes sur la formation universitaire. Vous avez des questions, des témoignages par rapport à la vente obligatoire des syllabus dans vos différentes universités, et instituts supérieurs. Appelez-nous au 081 890 63 94. Monsieur l'abbé Marcus Bindungwa est professeur d'université, il est également écrivain. Encore une fois, bonjour.
Bonjour, aujourd'hui.
Alors pourquoi la vente des syllabus est devenue obligatoire?
Ben, d'après ce que nous observons, c'est que cette obligation remonte à une certaine période où on commençait à constater que les étudiants avaient un niveau très bas. Ça, c'est, disons, le premier problème objectif. On avait constaté que les étudiants qui, les jeunes qui venaient des écoles secondaires et qui venaient à l'université avaient un niveau très bas, si bien que quand on dictait les notes, ou bien quand on expliquait simplement sans écrire au tableau,
ils ont du mal à noter.
On pouvait avoir la moitié de la classe qui ne note pas correctement comme il se doit. Alors après, comme ça se généralisait, alors cette pratique-là commençait à s'imposer, où on dit en appui à cette faiblesse-là, eh bien, ne fût-ce qu'au départ, surtout au début au niveau de première classe de G1, on va avec ce système-là pour suppléer à ce problème-là.
C'est la lacune, ouais.
Donc ça, c'est le premier niveau. Et puis deuxièmement, aussi à cause d'une certaine volonté d'initier les étudiants à se documenter, parce que il y en a beaucoup qui, si vous les laissez eux-mêmes aller acheter des livres,
ils n'ont pas ce temps-là.
Ils n'ont pas ce temps, mais ils peuvent même avoir les moyens, ils n'ont pas de volonté. Alors par moment, dans un contexte éducatif, on force, on oblige pour que ils arrivent à acheter. Malheureusement, cette obligation est passée des livres, parce que ce qu'on devait acheter, ce sont des livres, vers les syllabus qui sont en fait des notes de cours qui ne devraient pas être obligatoires. On est passé par là. Alors, la troisième raison, qui est justement le défaut, c'est que c'est devenu obligatoire pour des raisons mercantiles.
Donc, c'est devenu un business.
Oui, c'est, le syllabus est devenu à l'université chez nous une marchandise que les professeurs, les assistants, les chefs de travaux sont en train de couler malgré la pauvreté des jeunes qui font l'université et contre leur volonté. Voilà.
Donc c'est devenu une activité commerciale, un business, et qui a un caractère obligatoire.
Si, un business très 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 rentable.
Très, très rentable.
Très rentable.
Un syllabus aujourd'hui, c'est vraiment combien, par exemple?
On constate que, je reviens à votre question, on constate que beaucoup de professeurs préfèrent enseigner en G1. Dans les classes montantes, là, des licences, etc., on ne court pas derrière. Mais dans les classes où les jeunes sont encore naïfs en G1, vous avez de la course pour avoir une charge horaire, surtout dans les facultés.
Parce que là, on sait carrément les intimider, les manipuler.
Ils ont un jugement qui n'est pas encore bien élevé. Alors, on profite de cette naïveté pour les avoir. Alors, les prix, en tout cas, D'après ce qu'on observe, les prix aujourd'hui sont exorbitants. Tenez, un professeur...
Ça dépend du volume du document ou
Ça dépend même pas. Il n'y a aucune régularité. Je ne sais pas, je ne sais même pas dire ça dépendrait de quoi.
Tenez, il n'y a pas de critères sur lesquels on fixe les prix.
Aucun critère. Ça dépend de la bonne ou de la mauvaise volonté du professeur. Tenez, il y a un cas qui existe, un étudiant, un jeune qui commence l'université, qui vient parler et qui dit, bon, écoutez, le professeur oblige qu'on achète d'abord son livre qui coûte $50. Son livre édité qui coûte $50. Mais en plus de ce livre-là, il fait circuler encore un syllabus que nous devons acheter à $20 ou $25, je ne sais, je connais plus le prix. Voyez. Donc seulement pour un seul cours,
on va dépenser $75.
Ouais, il a déjà $75 à dépenser. Alors si on prend les autres, en tout cas la moyenne, c'est entre $20 et $30. Vous avez rarement des professeurs qui font des syllabus à $5. Si vous en trouvez, c'est vraiment parmi les meilleurs actuellement.
C'est rare.
C'est très rare.
Et
donc,
là,
les minimums, c'est vraiment dans les $10. C'est 10, 20 et 30. Et bon.
Voilà, c'est vraiment une activité rentable. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, alors quels sont les inconvénients ou les avantages? Est-ce que cette pratique a des avantages et des inconvénients aussi?
Je disais que, puisque ça permettrait, puisque le syllabus permettait de compenser cette difficulté-là du mauvais niveau de nos étudiants, ce qui est un problème réel, les syllabus peuvent effectivement être tolérés comme une obligation pour résoudre un problème.
Est-ce que d'abord ces étudiants ont le temps de les lire? Est-ce que, d'après votre constat, l'observation, est-ce qu'ils lisent
d'abord
régulièrement
quand on a,
ces syllabus?
Quand on a un syllabus, les étudiants ils n'étudient pas après le cours, en dehors de cours, et si ce ne sont pas des examens ou une interrogation qui pointe à l'horizon, ils n'étudient pas. Donc, à part l'utilisation des syllabus dans la salle de cours, ils ne les lisent pas. Pas seulement par rapport aux syllabus, mais même les profs qui n'imposent pas des syllabus, ils expliquent leurs cours comme ils peuvent, et les étudiants notent. Même ces notes-là, ils ne les lisent pas, ils n'étudient pas. C'est ça le problème. Et même, il y a des syllabus qui sont livrés à la dernière minute, peut-être pendant le temps des délibérations.
Oui.
Un étudiant qui constate qu'il n'avait pas de cote parce que il n'avait pas acheté les syllabus, le prof n'envoie pas ses cotes. Il n'a même pas les TP parce qu'il y a des syllabus qui ont des TP. Donc, d'habitude, pour obliger, ces syllabus sont numérotés.
Oui.
Chaque syllabus porte un numéro. Et quand vous
bien
venez.
Bien identifié.
Oui. Et quand vous venez pour faire tous les autres travaux et les TP et les interrogations, les examens, vous devez avoir votre identité. Donc, votre numéro de syllabus.
Donc, le passeport est devenu comme un passeport, ouais. Pour.
Oui, c'est presque un passeport.
Pour la réussite. Donc, c'est celui qui détient les syllabus, on peut dire qu'il a déjà réussi. Pour certains.
Pas directement.
Oui.
Pas directement. Mais c'est déjà une première condition. Donc, quand vous n'avez pas cela, même quand vous avez réussi, vous risquez de ne pas devoir de vide dans la grille de cotation.
Si vous n'avez pas acheté, vous avez syllabus.
Si vous n'avez pas acheté. Mais quand vous avez déjà acheté, ben, bon, à ce moment-là, vous avez l'autorisation de montrer vos compétences.
Voilà, vente obligatoire des syllabus à l'université, quels sont les inconvénients? Nous avons trois auditeurs en ligne. Freddy nous appelle de Lubumbashi, Rachel est à Kinshasa, Kabassia, à Bukavu. Vous voulez également participer, composez le 081-890-63-94.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Vente obligatoire des syllabus à l'université. Freddy, vous êtes à Lubumbashi, bonjour. On vous écoute, Freddy. Oui, Freddy, il y a des soucis. On vous entend pas très bien. Il y a des problèmes au niveau de la liaison téléphonique. Veuillez vous déplacer. Peut-être que ça va s'améliorer. Le temps d'accueillir Rachel qui nous appelle des Kinshasa et je reviens à vous tout à l'heure. Rachel, bonjour.
Allô, bonjour.
On vous écoute.
Oui, merci. Si je voulais dire, je voudrais vous parler de l'avantage et des avantages parce que je fréquente déjà l'université, c'est ce que je vois. Alors, l'avantage de Slavi, ça n'est que quand nous aide dans l'auditoire, donc au nombre de 500 étudiants. Alors, là maintenant, je vois l'avantage de Slavi, c'est ça permet d'être à la page. Parce que quand on est nombreux, les professeurs dupent là-bas, il y a d'autres gens qui font du bruit derrière tout ça, il n'y a pas moyen d'attendre tout ça. Mais si vous avez les slabis, vous vous retrouvez directement facilement. Mais quand ils abusent un peu, quand ils obligent maintenant, ça devient maintenant obligatoirement que tout le monde puisse avoir les slabis. Et les professeurs, dès qu'ils voient que quand il y a quelques nombres, donc quelques personnes qui ont déjà acheté les slabis, ils supposent que c'est déjà tout le monde qui a le slabis. Et quand il entre dans l'auditoire, il vous dit, allez, prenez page telle, il commence à expliquer. Et les autres, eux, ils n'ont pas de slabis. C'est ce que je dirais, c'est comme des avantages parce qu'eux, ils vont perdre parce qu'ils n'ont pas encore acheté de slabis. Et j'avais une question à demander, est-ce qu'on est obligé d'acheter tous les slabis, dans les slabis de tous les cours ou comment?
D'accord, merci Rachel. Kabassia, Debouka, vous, bonjour.
Bonjour papa.
On vous écoute.
Et ce qui m'étonne souvent est qu'ici à Bukavu, et quand les professeurs demandent des syllabus comme ça, et si vous n'achetez pas des syllabus, vous allez vous voir échouer dans le secours. Et même si vous trouvez ces syllabus ailleurs, ils vont forcer de l'acheter. Donc vous voyez que ça c'est une forme de corruption et ce n'est pas étonnant quand on place notre pays parmi les pays les plus corrompus du monde. Et souvent je vois qu'on est en train de crier sur la radio. Nous sommes un pays des droits, un pays des droits. Alors, on voit où est-ce que ça va avec les droits, parce que les futurs cadres qui sont formés, on les forme d'abord à partir de la corruption. Parce que les syllabus sont là, c'est fruit vraiment de la corruption. Parce que ce n'est pas obligatoire l'achat des syllabus, mais quand on les rend obligatoire, ça devient tout à fait une corruption, parce que cela conditionne souvent la réussite des étudiants à l'université. Et souvent, on a toujours dit que et c'est le niveau très bas des étudiants qui fait qu'on puisse vendre les syllabus. Mais je trouve que c'est un peu faux. Parce que si le niveau est très bas des étudiants, on doit les refouler, les retourner au secondaire. Et là, ceux qui ont donné cours au secondaire doivent savoir comment redresser alors leur niveau d'éducation et même au niveau de l'école primaire. On voit que le niveau vraiment est
très bas. D'accord. Merci Kabassia. Voilà. Merci Kabassia de Bukavu. Yano, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Oui, bonjour monsieur. Bonjour.
On vous écoute.
Moi, je voulais dire à notre invité, il lance un message très fort au professeur qui est à la base de notre échec. Parce que le professeur vient comme ça à l'auditoire, il nous parle que celui qui va acheter le service va réussir. Et celui qui n'achète pas, il va échouer. Maintenant, on achète le syllabus. Après payer les syllabus, il ne veut pas lire, il va faire semblant de lire parce qu'il dit que le professeur l'avait déjà promis. Après, dans les gardes de libération, on arrive comme ça, on a des échecs. Il conseille au professeur qui fait comme ça, les services facultatifs, c'est individuel. Si quelqu'un peut payer ou n'est pas. Merci beaucoup.
Bien, merci. Monsieur Labbé, vous avez la parole.
Bien, merci de leur réaction. Bon, tout tourne autour de cette obligation, pertinente ou pas pertinente. Mmh. Le dernier, Kabas a dit même que c'est une pertinence discutable parce que on ne peut pas donner comme raison le fait que les niveaux
est
bas pour arriver à l'obligation. Ben, je crois que comme professeur, d'après ce qu'on constate, le problème est vraiment très profond. Il est très profond. C'est comme ça que par moment, cette obligation peut être tolérable pour certains cours. qui sont des cours de base. Mmh. Et je crois que au départ, on pourrait tolérer cet élément-là.
Mais Rachel dit, est-ce qu'on est obligé d'acheter les syllabus de tous les cours? Parce que chaque professeur propose un syllabus.
C'est là justement le problème que les différents départements, les différentes facultés, les différentes institutions académiques devraient résoudre, régenter pour qu'on ne puisse pas vouloir résoudre un problème en imposant un autre. Donc ce n'est pas une très bonne option, je crois que...
Et cette vente des syllabus n'est pas ordonnée, elle n'est pas bien canalisée. C'est chaque professeur qui s'amène avec son syllabus.
Ce n'est même pas canalisé. Chacun fait ce qu'il veut.
Et comme il veut.
Oui, comme il veut. Et dans toutes les institutions. Il y a rarement d'institutions qui contrôlent cela. Peut-être les institutions confessionnelles comme... par exemple, à l'université catholique, je me rappelle que quand j'étais étudiant là-bas, on voulait pas que les professeurs qui enseignent ailleurs amènent cette mentalité des syllabus là. Et qu'à un certain moment, quand on a trouvé que le problème de niveau se posait vraiment, on a demandé à tous les professeurs, tout celui qui voulait faire vendre un syllabus comme note de cours, de passer au service de publication de sa faculté, que le problème soit traité avec la faculté, de telle sorte que il confie ses notes de cours sous format électronique auprès de cette faculté qui va gérer tout ça. Donc il va faire l'intermédiaire entre les étudiants et les professeurs.
Et là il y a un prix standard qu'on fixe pour tous les syllabus.
Et on a obligé qu'on n'aille pas au-delà de $5. Voilà. Donc, quels que soient les syllabus que vous amenez, vous devez faire de votre mieux. Le service de publication fait de son mieux pour réduire le format pour que il puisse coûter pas plus que $5. On a essayé de faire quelque chose comme ça pour essayer de gérer un peu ce problème-là. Mais partout ailleurs,
chacun fait ce qu'il veut, c'est pas géré. Oui. Yano de Lumbashi nous dit, parfois les profs, quand ils entrent dans l'auditoire, ils disent, celui qui n'achète pas mon syllabus a déjà échoué. D'ailleurs, il a déjà échoué. Alors, les étudiants se sentent, ils ont peur, ils vont rapidement acheter les syllabus.
C'est là justement.
Et quand il achète, il n'a plus le temps d'étudier. Il s'est dit que, donc, comme j'ai déjà acquis mon syllabus, donc ça veut dire que la réussite est déjà assurée.
C'est là la malhonnêteté, en fait. Donc, on intimide pour vendre son produit. Mais la promesse qu'on fait, c'est vraiment comme un mauvais jeu de marketing. La promesse qu'on fait à ces étudiants, elle n'est pas réalisée après. On dit celui qui achète
le syllabus
réussi, celui qui n'achète pas
va échouer.
Mais même celui qui achète, en fin de compte,
il échoue.
Il échoue. Ouais, donc c'est vraiment une mauvaise politique, une mauvaise tendance à bannir simplement.
Oui. Blanchard, vous êtes à Kinshasa, trésor à Lubumbashi, et Joseph nous appelle de Kinshasa. On commence avec Blanchard. Bonjour.
Bonjour Jody.
On vous écoute Blanchard.
Oui, ma question est de savoir si, scientifiquement parlant, un assistant a droit de pouvoir élaborer n'importe quel support de notes pour les mettre à la disposition des étudiants. Voilà.
Merci Blanchard. Trésor, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour Monsieur le journal.
Quelle est votre question?
Oui, au fait, moi personnellement, je regrette beaucoup en ce qui concerne la vente des supports obligatoirement. Du fait que, si vous constatez bel et bien, aujourd'hui, plusieurs étudiants ont devenu faibles suite à cette question. Parce que si vous regardez les jeunes gens qui viennent de l'humanité ou qui viennent des sixièmes des humanités, disais-je, aujourd'hui, quand ils entrent à l'université, ils ont dans le nez cette idée de dire que non, une fois, quand on achète le support, on a droit à quelques points, on a droit à une réussite, on a droit à passer, même quand on a échoué. Et cela, favorise beaucoup plus l'échec ou la diminution des concentrations dans les chefs des étudiants. Non seulement en genre 1, j'ai entendu quand M. Labbé parlait là, à propos que non, cela a été juste une façon de faire remonter un peu le niveau des gens. Moi, je crois que non. Cela est juste une façon qui favorise aux professeurs de gagner ou de se faire de l'argent inutilement. Du fait que, si vous constatez aujourd'hui, la vente des supports n'est pas mauvaise. Quand on exige aux étudiants d'acheter les supports, cela n'est pas mauvais. Mais ce qui est mauvais, c'est l'intention se trouvant dans les chefs de professeurs.
D'accord, Trésor, on a compris. Alors, vous avez une question?
Oui, en fait, ma question était de savoir pourquoi, quand les professeurs vendent leurs supports, ils dressent une liste. Donc, quand un étudiant achète un syllabus, pourquoi on enregistre ce nom? Cela, c'est pour vérifier par après si il avait acheté ou pas, ou cela, c'est juste une façon de pousser les étudiants à acheter parce qu'ils auront à un certain moment quelques points.
D'accord, merci. Joseph, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à l'invité.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la vente obligatoire des syllabus?
Comprenez un peu mon émotion, moi je déteste de telles choses, Jody.
Oui.
Parce que pourquoi ça affaiblit la mémoire des étudiants? Je peux vous donner un petit témoignage, je serai un peu trop rapide.
Mm-hmm.
J'ai fréquenté l'université Notre-Dame du Kassai, c'est à Cannes, où on parvenait à arriver à l'auditoire à partir de 4h, 3h du matin pour chercher des places, comme l'auditoire était vraiment très vaste ou très, très grand.
Mm-hmm.
Et parfois, lorsque les professeurs parvenaient à mettre en vente les syllabus, certaines personnes parvenaient à acheter les syllabus. Et ceux qui venaient à l'auditoire à 4h, 3h sont parvenus maintenant à venir à 10h, 11h en disant que nous avons des syllabus. Et ils oublient que les explications maintenant, c'est différent peut-être avec ce qui se trouve dans les syllabus. C'est pourquoi moi je déteste de telles choses. Ça affaiblit complètement la mémoire des étudiants. Et j'aimerais encore poser une question à l'invité. S'il peut nous ouvertement. Le gouvernement ne peut pas proposer un prix valable qui peut aider dans toutes les universités de la RDC à l'achat de syllabus. Je vous remercie.
Merci Joseph. Faustin, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Oui, bonjour Jody.
Quelle est votre question, Lubumbashi? Quelle est votre question, Faustin?
Je voudrais proposer, Jody, quelque chose à l'université parce que quelqu'un qui a 3-4 enfants à l'université, si on doit mettre le prix de 15 dollars, 20 dollars ou 30 dollars, c'est vraiment difficile pour les parents de résister à cette situation. Est-ce que l'université et le gouvernement ne peuvent plus s'entendre pour pouvoir enfin mettre les syllabus à 5 dollars? Et comme ça, ça peut nous aider aussi à payer ces syllabus parce que nous comprenons que les professeurs ont aussi des difficultés, M. Jody. Vous voyez qu'il y a des grèves partout et si ils ont opté pour pouvoir ces syllabus, c'est pour aussi résister et à la vie. C'est pourquoi je voudrais proposer que si on peut mettre un bon prix là qui peut être passable à tout le monde, nous puissions aussi payer ça sans pour autant réclamer.
Merci Faustin. Merci, bonne journée à Lubumbashi, Monsieur l'Abbé. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces auditeurs?
Ouais, je commence par... C'est ces deux propositions qui vont dans le même sens, mm-hmm. Donc Joseph et Faustin.
Oui.
Bon, je trouve que la proposition, la suggestion qu'ils font est bien. D'abord, j'aimerais dire à Faustin que si les professeurs ont pris autrefois cet argument pour, en fait, se donner ce que l'État ne leur donnait pas,
mm-hmm.
actuellement, avec le peu que l'État donne, normalement, il devait cesser, s'ils étaient cohérents. En tout cas, si nous, professeurs, nous sommes cohérents, et que si nous avons commencé à faire cela parce que on s'est dit, bon, il faut quand même qu'on enseigne, et donc on doit avoir des moyens, on doit vivre, et donc on passe par cette mesure-là. Alors quand l'État commence à résoudre le problème, Alors on devrait bannir cette technique-là, ce moyen de compensation. Donc je trouve que ce ne serait pas assez intéressant. Mais la proposition de vouloir imposer un prix plafond que nul ne peut dépasser, ça serait une bonne proposition. Dire que quand il y a nécessité d'un syllabus,
ça ne doit pas dépasser,
en tout cas par rapport au coût de la vie de chez nous, ça ne devait pas dépasser $5, quelle que soit la taille. Et pour un cours, pour un même cours, on ne peut pas avoir deux supports.
Ah, il y a certains qui produisent deux supports pour le même cours.
Je vous ai dit qu'un prof demande $50 pour son livre et puis $20 pour les syllabus.
Pour un même cours.
Pour un même cours. Et c'est en G1. On peut comprendre quand, avec de gros livres, etc., quand les jeunes arrivent jusqu'au niveau de la licence, c'est des questions approfondies. Oui, mais pour ceux qui sont au départ, où on donne les ABC d'une science, pourquoi on devrait aller jusqu'à ce niveau-là? Je pense que le prix maximum de $5 pour tous les supports possibles d'un cours, je crois que ça serait beaucoup plus intéressant. L'État, le pouvoir organisateur...
Mais si on doit payer $5 pour chaque cours, je ne sais pas combien de cours les étudiants ont, peut-être ça peut être 15 ou 20.
Ça peut se gérer, ouais. Ça peut se gérer quand vous avez 20 cours. Vous voyez bien que vous arrivez juste à $100 pour toute une année. Au moins vous savez que vous n'allez pas dépasser $100. Vous pouvez prévoir ça à l'avance. Mais maintenant, les étudiants vont. On vous dit, par exemple, vous payez $700 de frais. Vous payez les 700, mais vous ne savez pas combien, en fait, vos études vont coûter. Parce que chaque professeur viendra avec 100 ou ses syllabus. Ces TP qui vont
il y a même des TP
payés.
Payants, oui, des donc, interrogations
c'est ça. Alors,
payantes.
Alors, quand on combine tout ça,
oui. Ils
peuvent aller jusqu'à payer pour tous ces cours-là plus de $300. En fait, on arrive jusqu'à $1000. On préférerait plutôt qu'on s'entende assez clairement, qu'on fixe un prix relativement élevé des frais une fois pour toutes et que qu'on les glisse dans les frais et donc que au niveau de la relation entre professeur et étudiant, que ce problème d'argent soit écarté. Quelqu'un parlait de la corruption ici. Ça ressemble un peu à cela, quoi. Donc l'étudiant
Qui doit fixer ce prix? Est-ce que il revient au ministère de tutelle de le faire ou au chef d'établissement?
Par exemple, pas seulement de le faire, mais de faire contrôler et d'insister, de taper du poing sur la table parce que ça n'est trop. Il y a un ministre qui était revenu là-dessus, le ministre Machak autrefois avait parlé de ça. On avait posé le problème et on était en train de fixer un plafond. On avait déjà rappelé que ce n'était pas obligatoire. Mais malgré ça, ça continue. Entre professeurs, entre un chef de département et un collègue qui fait cela, c'est un peu de la délicatesse. C'est un peu de la délicatesse. Parce que les profs qui se retrouvent là-bas, c'est parfois des aînés. On a honte. On est gêné parfois
gênés.
À leur place,
oui.
De comprendre, de voir que cet aîné qui est resté là pendant longtemps... qu'il continue avec une technique si malheureuse. On est gêné de lui dire « Arrêtez !» Vous voyez, donc ça gêne. Ça gêne, on ne veut pas l'humilier, mais il faut bien qu'il se mette à sa place, qu'il comprenne qu'il a affaire à la jeunesse et qu'il doit donner la chance à la jeunesse d'aller de l'avant. On dit que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Alors, donnons la chance à cette jeunesse-là, poussons cette jeunesse... vers l'avant. Facilitons la tâche.
Oui. Bozi, vous êtes à Iziro, en province orientale. Bonjour.
Allô, bonjour.
Quelle est votre question? Quelle est votre question, Bozi?
Oui, j'ai une petite question à poser à l'invité.
Oui.
Oui. J'aimerais savoir à propos de votre syllabus.
Oui, quelle est la question?
Si cette vente est aussi autorisée par les chefs de travaux et aussi les, par les assistants, parce que j'ai vu ce cas qui se passe ici à Istiro.
Oui, qu'est-ce qui se passe là-bas?
Le cas de vente des syllabus par des chefs de travaux et même les assistants.
D'accord, merci. Il y a même une question à Blanchard.
La question a déjà été posée,
oui. Bar Blanchard qui demande, est-ce qu'un assistant a le droit d'élaborer un support?
En principe, à l'université, un chef de travaux ou un assistant n'est pas titulaire de cours. Le titulaire de cours, c'est le professeur, le docteur, au minimum. Donc, c'est cela. Mais ici, chez nous, on fonctionne avec un personnel professoral diminué. Les institutions académiques sont nombreuses. Autrefois, on disait que c'était 1,8 par institution académique. Or, nous sommes dans les 1000 institutions académiques dans le pays. Donc, il y a de la carence. C'est comme ça que les chefs de travaux, les assistants qui sont parfois doctorants ou licenciés, ont commencé à enseigner. En fait, ils sont chargés d'enseignement, mais ils sont devenus des titulaires.
Certains en profitent.
Ils pratiquent parfois la même chose, le même excès. Et souvent, quand il s'agit d'eux, c'est encore plus dur.
C'est encore plus dur.
Encore plus dur.
Quand il s'amène avec son support, il vous impose.
Oui. Et souvent, quand les professeurs le font, ils se gênent. Ils ne veulent pas
apparaître. Ils envoient leurs assistants.
Ce sont les assistants qui s'en occupent. Voilà. Donc, alors, en principe, institutionnellement, comme ils ne sont pas titulaires de cours, ils ne devraient pas. Mais malheureusement, chez nous, comme ils le sont presque devenus, ils ont commencé à suivre l'exemple de leurs aînés dans la profession et ils font la même chose. Et souvent, quand on imite un mauvais exemple, on l'imite vraiment de la mauvaise façon.
De la mauvaise façon, oui. Ouais. Trésor de Lumbashi a posé la question de savoir pourquoi les professeurs dressent la liste gens qui ont acheté les syllabus.
Mais c'est là justement aussi le problème. On devait laisser les jeunes libres d'acheter, conscientiser et laisser chacun acheter ou ne pas acheter. Et pourquoi on doit demander que chaque année les étudiants, même si j'ai mon frère qui a fréquenté, qui a étudié les mêmes choses avec le même professeur.
Pour vous autant n'avez que pas lui, le droit d'aller prendre
que je n'ai pas
syllabus.
Le droit d'aller prendre
c'est d'utiliser ça, son syllabus.
C'est ça le problème. Donc,
et ça, les profs
c'est ce qui montre, c'est ce qui révèle justement une intention commerciale et non pas une intention éducative. C'est ça. On est vraiment sorti de la compensation pour aider les niveaux, les étudiants à s'élever. Et ce que les jeunes disent en faisant le bilan, en appréciant cette disposition en fonction de son bilan, ils raisonnent bien. Ils disent que on dit que c'est pour compenser, mais en réalité, les niveaux continuent à baisser parce que les étudiants qui ont les syllabus pensent que...
La réussite est déjà assurée. Oui. C'est ce que Joseph a dit, ça favorise la paresse.
Oui, là, il faut dire étudiants. Quand même aux étudiants que un syllabus, ce n'est pas une licence à l'absence. Parce que dans les syllabus, il n'y a pas nécessairement tout. Parfois, on fait un fourre-tout. On produit un gros syllabus et quand on vient au cours, on donne l'essentiel, on insiste sur les éléments essentiels. Il faut être là pour savoir quels sont ces éléments essentiels. Donc,
parce que certains disent, bon, je peux m'absenter, il n'y a pas de problème, j'ai déjà mon syllabus.
Ou bien ils donnent juste le squelette et pendant le cours, ils ajoutent d'autres éléments.
Qui ne sont pas dans les syllabus.
Qui ne sont pas dans ces éléments-là, vous devez les avoir, etc. Donc, le syllabus n'est qu'une sorte d'aide mémoire pour permettre à l'étudiant de bien suivre le cours, mais ça ne devait pas être une marchandise à l'université, ça ne devait pas non plus être une condition pour la réussite. Donc, je crois que ça, c'est tous les désordres qu'on a qu'on a inséré dans cette mesure qui compensatoire qui pouvait être utile quoi.
Et on peut dire que les chefs d'établissement sont complices.
Je ne parlerai pas directement de complicité.
Ou il laisse faire, il y a un certain...
Il ne laisse même pas faire, mais c'est parfois... C'est délicat quand vous avez des collègues. Vous avez parfois des aînés.
Oui.
C'est délicat. C'est délicat
parfois,
de
vous
ne
savez
mettre...
pas les interpeller, leur dire ouvertement, arrêtez
parfois,
avec ce système.
Parfois, vous trouvez une façon de le dire comme ça lors d'un conseil à tout le monde. Mmh. Mais il faut que chacun obéisse. Mais bon, je pense quand même qu'il appartient à toutes les autorités, la chef de département, doyen des facultés et secrétaire général académique, recteur, de commencer, d'interdire... enfin, pour moi... On interdirait cela et on obligerait, par exemple, les professeurs en disant plus question de syllabus, des livres imprimés dans des maisons d'édition reconnues en donnant le nombre de ces maisons d'édition. Parce que dans une maison d'édition, parce qu'on ne pose pas encore le problème du contenu de ces syllabus, parfois il n'y a rien là-dedans. Parfois, il n'y a rien, c'est de l'argent gardé, gagné pour rien. Et parfois, c'est des écritures invisibles, à peine visibles. Mmh. Donc, il dirait, les autorités académiques diraient, bien, celui qui veut faire quelque chose, ça doit être un livre, publié dans une édition, et le prix ne doit pas dépasser tel. Alors, les professeurs seront obligés de passer par les différentes maisons d'édition qui ont été répertoriées. Or, dans une maison d'édition, quand vous y allez, avant qu'on puisse publier votre livre, puisque ça doit porter leur label, on donne ces textes-là à la correction, à la critique, auprès d'autres personnes qui sont spécialistes en la matière comme vous. Mmh. Et ces personnes vous critiquent et vous recevez les critiques. Et à partir de ces critiques-là, vous amendez votre texte. Donc, on aura des syllabus de qualité, donc qui seront des livres. Et ces livres-là, en plus, pourraient être vendus en des prix qui vont protéger quand même la fragilité des étudiants et qui vont justement arracher cette dimension corruptive, économique et commerciale qui est en train de détruire... le côté pédagogique, même le côté docimologique, le côté de la cotation, l'objectivité a déserté parce que le syllabus est là. Voilà.
Bien, Monsieur l'abbé Marcus Bindongwa, professeur d'université, écrivain, merci.
Je vous en prie.